Allez, le mot de la semaine, c'est décroissance française. Pierre, c'est pas...
J'aime bien ce regard, Marc.
C'est pas votre chanson. Hein. Bon, ce n'était pas terrible quand même, hein, même si c'était pas une surprise. -0,1% de croissance au premier trimestre en France. Comment peut-on expliquer ces chiffres? Est-ce qu'on peut se consoler, d'ailleurs, parce que j'ai vu, Isabelle, qu'on a révisé à la hausse les chiffres de croissance pour l'INSEE pour 2023 et 2024. D'abord, c'est quoi cette révision, en fait? J'ai pas très bien compris.
Alors, cette révision, elle est...
Très forte, très spectaculaire.
Oui, c'est assez important. Après, c'est assez technique.
Okay.
Et il y a une partie, c'est la difficulté lorsqu'on a des périodes inflationnistes de faire le partage entre volume et prix.
Okay.
Or, la croissance, elle est en volume hein, quand on l'annonce. Hein. Et dans ces périodes inflationnistes, c'est vraiment très difficile de faire ce partage. Donc, on l'avait mal fait et donc ça a été révisé à la hausse. Non, ce qui est...
C'est de la vraie croissance qu'on a révisé à la hausse ou pas?
Alors, ben, c'est de la croissance en volume. Donc,
en
oui,
volume.
C'est ce qui est dur. C'est pas lié justement, justement au prix. Non, ce qui est vraiment intéressant, au-delà de ces révisions techniques, hein, c'est que ça change l'histoire en termes de productivité française.
Okay.
Le diagnostic qu'on faisait, c'est-à-dire qu'avant avant la révision, on avait l'impression qu'on avait une panne de productivité en France. Ouais. On parlait beaucoup de ce retard de productivité qui était, par exemple, à fin 2023, on était... En niveau de productivité, on était 4% inférieur au niveau de 2019. Ouais. Et on se démarquait d'ailleurs des autres pays de la zone euro. Alors, on avait eu effectivement une certaine reprise de l'activité, mais aussi une reprise qui était très enrichie en emploi. Et donc, on cherchait plein d'explications pour cette panne de productivité. On parlait de l'apprentissage, ouais. de l'explosion de l'apprentissage, le fait qu'on ait eu ces prêts garantis par l'État qui avaient mis sous perfusion certaines entreprises non productives. Enfin, voilà, on cherchait un tas d'explications, mais en fait, l'explication, c'est que le chiffre n'était pas le bon.
D'accord.
Puisque après révision, en fait, on a rattrapé notre retard de productivité dès la fin 2023.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est 2-3% au-dessus du niveau de 2019.
Donc, côté productivité, tout va bien.
Non, c'est pas que tout va bien, mais en tout cas, on ne se démarque pas par rapport à l'Europe.
D'accord.
Où on était très... Enfin, on avait l'impression qu'il y avait vraiment une rupture en France qu'on ne voyait pas ailleurs. En revanche, on a bien évidemment une productivité qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aux États-Unis. Donc, il y a quand même des éléments d'inquiétude sur le faible niveau de productivité.
Et ce -0,1 au premier trimestre, il vous inspire quoi?
Alors, le -0,1, de la déception, parce que c'était par rapport à nos prévisions, hein, que ce soit l'INSEE, la Banque de France et nous-mêmes, on était sur entre 0,2 et 0,3 de croissance sur le trimestre. Donc, c'est pas vraiment ça qui s'est produit. Aussi une déception par rapport aux pays voisins, alors les gros pays, parce qu'a priori ça a été révisé, c'est beaucoup l'Irlande qui explique cette révision, mais quoi qu'il en soit, on avait 0,3% de croissance en Italie, en Allemagne, 0,6% en Espagne. Et donc une vraie singularité française sur ce premier trimestre qui s'explique quand même par des éléments un petit peu exceptionnels. Ce qui pèse surtout sur l'activité, c'est la chute des exportations, notamment dans le secteur aéronautique. Et alors on en retrouve une partie, ça veut dire qu'il y a eu des livraisons qui ont été retardées, donc on retrouve ça dans les stocks, puisque les stocks, eux, ont contribué positivement à la croissance. Mais quoi qu'il en soit, on imagine, vu les niveaux de livraison, qu'on va avoir une espèce de rattrapage dans les mois ou trimestres.
Et donc vous attendez combien de croissance pour l'année?
Sur l'année, on était à 0,9. Bon, ben, on est en train de le réviser à la baisse.
0,6, 0,7.
Ouais, 0,7, j'aurais tendance à vous dire. Et puis, le deuxième élément, c'était l'investissement. L'investissement baisse, c'est pas une bonne nouvelle. Mais il y a la question de l'investissement public qui s'est fortement replié sur le premier trimestre. Faut se rappeler qu'on était en période électorale, donc gel des investissements. Et puis, on a voté le budget très tardivement. Et on s'attend aussi à un effet, à un peu de rattrapage durant l'année.
Donc, effet politique aussi.
Voilà, donc effet politique. Donc globalement, c'est pas une bonne nouvelle, mais il faut quand même probablement la relativiser.
Il faut relativiser, Christopher.
Oui, je pense que la trame fondamentale pour l'économie française, elle n'a pas changé réellement. Par exemple, sur la production industrielle, si on regarde par rapport à 2019, donc avant Covid, on est finalement en s'en sort un peu mieux que les grands autres pays européens. Mais sur le reste, si vous regardez la trésorerie des entreprises, notamment sur les PME ETI, ça reste toujours très problématique. Ouais. C'était déjà le cas fin 2024. C'est un élément qui amorçait effectivement une augmentation du taux de chômage qui se matérialise aujourd'hui. Donc il y a toujours les mêmes défis et surtout peut-être un point qui va vous intéresser. Vous avez eu récemment une étude d'Eurostat qui montre aussi que le micmac aujourd'hui en termes de fiscalité est vraiment problématique. On a
l'absence de visibilité.
Oui,
pas uniquement ça, mais l'amoncellement de taxes. En France, vous avez plus de 300 taxes diverses. Le numéro 2, qui est le Danemark, on a simplement autour de 130.
Okay.
Donc, ça vous donne, l'Allemagne, 90. Donc, juste l'amoncellement aussi d'un cadre fiscal, sans parler juste de l'incertitude, bien sûr, mais vous avez tellement de fiscalité qui est alourdie à un certain stade, c'est aussi un des problèmes fondamentaux de l'économie française.
Pierre, qu'est-ce qui vous rend positif?
Alors, déjà, Première chose, l'essentiel de la révision, c'est sur la production manufacturière. Mm-hmm. On se rend compte que, comme vient de le dire Christopher, depuis 2019, en fait, on ne s'est pas vraiment désindustrialisé.
Okay.
Donc, pour moi, c'est quand même rassurant. Ça veut dire que la politique de l'offre qui a été mise en place sous Macron, elle a plutôt arrêté la désindustrialisation. Après 35 ans de baisse ininterrompue. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une source d'enthousiasme, quelque part. Deuxièmement, les chiffres de la zone euro sur le premier trimestre, c'est moins 0,2% sur le PIB du premier trimestre. Donc, c'est-à-dire que la France est mieux que la zone euro.
Pierre, vous n'avez pas peur ce coup-là.
La zone euro, c'est...
D'accord, la zone euro est à moins 0,2, nous, on est à moins 0,1 et on s'applaudit.
Moins 0,1, plus 0,1, bon, on est autour de l'équilibre. On a des économies en Europe.
Bon, on est à zéro, ok. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Qu'on est en train de dire le contexte politique est mauvais. Christopher nous dit l'incertitude, la fiscalité. Isabelle nous dit l'incertitude politique.
Moi, ce que j'essaie de faire, c'est je pense que c'est pas bon de se lamenter tout le temps.
Non.
Donc premièrement.
Non, mais empêche pas d'être objectif. Ah,
donc quand je regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure quelque part. Parce que quand on regarde dans les autres pays,
Mais par rapport à qui vous consolez?
La situation politique dans les autres pays est mauvaise.
D'accord, mais économique, par rapport à qui vous consolez?
On parle souvent des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui a un déficit colossal, qui a une dette énorme. Ouais. Je veux dire, ils sont presque, à part leur secteur technologique, je veux dire, ils sont dans une situation
que 0,4 de croissance au premier trimestre.
Ouais.
Sauf que la technologie, c'est quand même juste l'avenir, quoi. Secteur. Ils sont pas dans le tourisme et dans les musées.
Ils sont bons sur la tech, okay. Tout le reste, je veux dire, c'est compliqué. Tout est compliqué.
Mais demain n'est que tech.
On verra.
Pour essayer de rebondir sur ce que vous dites, sur le taux de chômage, tout le monde s'affole de la montée du taux de chômage. Aujourd'hui, c'est pas le bon indicateur. Si vous regardez le taux d'emploi, il est à des niveaux historiquement élevés en France.
Mais c'est pas bon d'avoir un taux de chômage au-dessus du pourcent quand même.
Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas forcément le bon indicateur pour juger de la situation du marché du travail. On a fait augmenter notre taux d'emploi ces dernières années. Alors certes, là, on a raison. Si on se compare, par exemple, à l'Allemagne ou à certains pays nordiques, on est encore en deçà. Mais là, c'est lié, la remontée du taux de chômage, c'est lié à la loi plein emploi, où on fait revenir progressivement sur le marché du travail, des gens qui se mettent à chercher du travail, que ce soit des jeunes qui étaient sans emploi ou éloignés du marché du travail, ou des gens qui sont au RSA. Donc, ça veut dire que ça ne reflète pas, on perd pas d'emploi.
D'accord.
On perd pas d'emploi, c'est simplement, il y a plus de gens qui cherchent et ils ont un peu plus de mal à trouver, mais parce qu'ils étaient effectivement très éloigné du marché de l'emploi, mais le taux d'emploi, lui, est à des niveaux historiquement élevés. Voilà, ça permet...
Quand on voit ça des États-Unis, parce que vous êtes très global, vous n'êtes pas qu'américaine, mais vous connaissez bien les boîtes américaines. Franchement, on est un pays sous-dev, non?
Non, sous-développé, je ne dirais pas ça. Non, mais c'est très difficile. On a du retard. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de retard. On a du retard sur des tas de choses et on a des atouts. Et les atouts, on s'en occupe pas. Vous parlez du tourisme, c'est quand même une industrie fantastique et on s'en occupe pas. Donc je comprends pas.
On s'en occupe pas mal quand même. Emmanuel Macron voyage beaucoup, il fait du tourisme.
Oui, bon. On a un problème de soutien à l'investissement, c'est indéniable. Pourquoi nos talents y partent? Je rencontre encore des personnes qui sont dans l'IA et qui vont dire, de toute façon, maintenant, quand je vais être en croissance à tel niveau, je suis obligé de partir aux États-Unis. C'est terrible d'entendre ça. Donc, oui, on est en retard, on a un déficit d'investissement, on n'a pas on est sur un. Je dirais une structuration qu'elle soit sur le travail
social.
Donc c'est compliqué.
Non mais c'est vrai, moi je rejoins Pierre dans le sens où on a énormément d'atouts, c'est ça qui nous désole, parce que si on n'avait pas d'atouts, Pierre, on serait pas... Ouais. Mais c'est pour ça que je me lamente pas, je me dis simplement, si vous voulez, je vois tellement d'atouts, et je vois factuellement à côté de ça, je vois une performance, et je vois un temps qu'on passe à parler des taxes, à parler contraintes, à parler de la politique.
La bureaucratie, c'est surtout qu'on a un modèle qui est très centralisé à Paris.
Ouais, ouais.
Par exemple, indéniablement sur la tech, on a du potentiel. On parle beaucoup de data center et de choses France. Effectivement, en termes d'investissement, c'est quand même data center et logistique. Mais un data center en France, vous mettez mettez 8 ans à ce qu'il soit opérationnel. Et sur ces 8 ans, vous avez 6 ans qui est juste du réglementaire, bah oui. Autorisation,
etc. Et ça sera obsolète. Une fois qu'il y aura exactement. L'appel d'offres sera rempli, donc, ça sera obsolète.
Je pense qu'à la toute donc, fin des choses, c'est que vous avez une incapacité à déléguer, parce que vous avez un État central, et toutes les grandes économies qui ont été en déclin et qui ont réussi à enrayer leur déclin, elles ont délégué davantage aux provinces, elles ont réduit l'assise de l'État, elles ont surtout mis en place des réformes ambitieuses. On n'en est pas là.